BFM Business présente Les Experts sans frontières.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Les Experts sans frontières. On va profiter ce soir du regard de nos experts qui nous viennent de Belgique, d'Allemagne et du Portugal pour démêler le fil de l'actualité internationale et essayer de comprendre ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois. On va commencer par se glisser dans les couloirs des institutions européennes puisque selon la presse à Bruxelles, on cherche un médiateur, un interlocuteur qui serait capable de parler à Vladimir Poutine alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, Bruxelles et Moscou ne se parle plus, au moins officiellement. Il faut donc quelqu'un qui sache parler au Kremlin sans trahir Kiev. Oui, parce que les Européens n'ont pas l'intention de lâcher l'Ukraine. Au contraire, le chancelier Friedrich Merz lance l'idée d'une sorte d'adhésion à l'UE pour les Ukrainiens avec un statut particulier. On va voir ça. Et pendant que les Européens discutent, eh bien, on a quand même l'impression que le centre du monde géopolitique s'est déplacé à l'Est, à Pékin en particulier, où Xi Jinping, juste après avoir reçu le président américain Donald Trump, a accueilli cette semaine son homologue russe Vladimir Poutine. Et pendant que les Chinois et les Russes travaillent sur leur amitié sans limite, à l'autre bout de la planète, les Américains, eux, ils avancent leur pion dans l'hémisphère occidental et ils rappellent au reste du monde que non, ils n'ont pas vraiment oublié le Groenland. C'est le menu des Experts sans frontières dans 5 petites minutes.
Les Experts sans frontières.
Bienvenue si vous nous rejoignez, on est dans les Experts sans frontières. Ça y est, ils sont autour de moi, les Experts sans frontières. Ils vont nous aider ce soir à démêler les fils de l'actualité internationale, à y voir un peu plus clair grâce à leur expertise et à leur regard qui nous vient d'une perspective différente. On est entre Européens ce soir ici. J'en suis particulièrement ravie puisque avec moi, il y a Frédéric Kaufmann. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante en France du journal allemand Handelsblatt. Anna Navarro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante de la presse portugaise en France. Et puis, j'accueille aussi Fabrice Ravel.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géopolitique à l'ESCE Groupe Omnes. Et on le sait peu, mais vous êtes franco-belge. Donc, vous êtes aussi européen. On va commencer tout de suite avec le grand sujet qui nous a occupé cette semaine. Puisqu'il y a des bruits de couloir dans les chancelleries européennes. Ils nous ont été révélés par la presse, par Politico et le Financial Times, notamment des bruits selon lesquels les Européens commencent à chercher un interlocuteur pour parler à Vladimir Poutine. Alors, les Européens et les Russes n'ont plus vraiment de relations diplomatiques depuis le début de la guerre en Ukraine et les Russes ne discutent officiellement qu'avec les Américains. Sauf que les Américains sont bien occupés en Iran en ce moment et donc les Américains ont laissé entendre aux Européens qu'ils ne sont plus vraiment opposés à ce qu'ils mènent aussi des pourparlers en parallèle avec les Russes. Sauf que maintenant, bah oui, il faut trouver un interlocuteur. Alors, il y a plusieurs noms qui ont circulé. Il y a eu notamment Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. Il y a eu Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien. On a parlé aussi d'Alexander Stubb, qui est le président finlandais encore en place. Est-ce que vous imaginez, chers experts, Vladimir Poutine qui parle avec Mario Draghi, avec Angela Merkel, et qui est sérieux? Je vous laisse commencer, Anna Navarro.
Merci. Avec Angela Merkel, elle a la réputation d'être ne pas être opposée, ne pas être atteinte de russophobie, on va dire. Il n'en reste pas moins qu'elle est l'une des co-signataires des accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, et qu'elle-même est la première, a suivi ensuite de François Hollande. Elle a avoué que ces accords ont été établis avec la Russie uniquement dans le but de permettre de les tromper, de permettre à l'Ukraine de se militariser. Donc, du coup, je pense que sa crédibilité auprès de Moscou doit être assez petite.
Réduite.
Ensuite, la question, c'est intéressant parce qu'en Europe, on se focalise sur la question qui on va envoyer pour parler avec, qui va prendre ce chemin de Damas pour l'Europe, qui est le chemin de Moscou. Eh bien, qui on va envoyer, mais personne ne parle de pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut faire en établissant des liens avec la Russie? Est-ce pour le pétrole? Est-ce pour les hydrocarbures? Alors qu'on nous annonce pratiquement chaque semaine à Bruxelles ou chaque mois qu'on va encore réduire notre dépendance de la Russie. Si c'est pour diminuer la dépendance de la Russie, alors pourquoi on va parler? Ensuite, et j'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ensuite, on voit une escalade assez importante niveau militaire et de tensions militaires entre l'Europe et la Russie, notamment par le biais des drones ukrainiens qui passeraient au-dessus des pays baltes et voire de la Finlande pour atteindre des cibles en Russie. La Russie qui dit, c'est comme ça, si les Européens veulent la guerre, ils vont l'avoir. Donc, il y a ces deux éléments qui semblent être l'Europe qui prévient d'une guerre et termine vraiment là. L'Europe qui nous prévient depuis des semaines, des mois, qu'on va avoir une guerre avec la Russie, que la Russie va nous attaquer, et qui semble faire tout pour que ce soit une prophétie auto-réalisée. Et en même temps, on prend le chemin de Moscou pour parler avec eux. Il y a beaucoup d'inconséquences dans tout cela. Et peut-être le nom n'est pas le plus important.
Alors, la porte-parole de la Commission européenne, Paola Pignot, pense comme vous que c'est plus important que le qui, c'est de savoir le quoi, et surtout ce que nous voulons demander à la Russie. Peut-être que c'est ça, en fait, la vraie question, Fabrice Ravel, c'est quelles sont nos lignes rouges? Qu'est-ce qu'on est prêt à céder si on va négocier?
Mais en fait, en faisant cette action, on affiche déjà le fait que nos lignes rouges sont en train de reculer. Mmh. Parce que je suis renchéri sur ce que vient de dire notre collègue et je suis en adéquation totalement. La question de savoir qui va y aller finalement est assez accessoire. Par contre, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est que ça montre déjà une première chose. Apparemment, personne ne s'impose automatiquement dans les instances de l'Union européenne. Or, il y a quand même un poste. C'est le poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parce que j'ai été revoir quelles sont les attributions de ce poste, et il est marqué que pour l'Union européenne, la personne en charge de ce poste doit élaborer, je cite, et mener la politique étrangère et de la sécurité commune. Donc en fait, c'est Madame Kaya Kallas, alors évidemment elle a l'inconvénient estonienne pour les Russes, mais on voit bien que qu'est-ce que ça met en exergue en réalité ? D'abord que l'Europe ou l'Union européenne est excessivement brouillonne dans ses démarches, comme ça vient d'être dit. Deuxièmement, que si on veut vraiment avoir une politique, une géopolitique ou une géostratégie, il va falloir qu'en Europe, on commence quand même à réfléchir à quelles sont les évolutions en termes d'institutions et d'objectifs qu'on veut mettre en place. Et puis, si vous me permettez, sans vouloir uniquement m'arrêter à la sémantique, ce qui est intéressant dans la question que vous formulez, les Européens cherchent un médiateur. Donc, c'est eux qui font la démarche, et c'est Moscou qui regarde les Européens venir à eux. Ce qui nous met, en termes de géostratégie, dans un rapport de force qui, là, est manifeste. Moi, je pense que c'est surtout ça qui est interpellant et qui ne fait que conforter, effectivement, l'impression que vous étiez en train d'esquisser.
Justement, selon les indiscrétions de presse, les Européens avaient pensé à Kaya Kallas, qui est un peu la candidate naturelle pour ce poste, mais... Les Russes ont refusé, ils ont essayé de proposer quelqu'un d'autre, en l'occurrence Gerhard Schröder, qui est l'ancien chancelier allemand, qui ensuite s'est reconverti dans des entreprises russes proches du pouvoir. En fait, jusqu'où on devrait écouter ce que les Russes ont à nous dire sur la personne qu'on choisit de leur envoyer, Frédéric Hoffmann?
Je crois Vladimir Poutine, c'est exactement ce qu'il fait en proposant Gerhard Schröder comme médiateur. Comme vous avez dit, l'Europe est divisée, l'Europe n'est pas unie, qui doit négocier et quoi. Et quand il propose Schröder, qui était très très proche de Poutine dans les dernières années. Après ça, il était chancelier, il est souvent allé à la Russie, il était à Rosneft, dans les entreprises énergétiques, il n'a même pas condamné la guerre en Ukraine. Alors c'est vraiment...
C'est presque un affront par rapport aux
Européens. C'est un affront par les Européens, pour les Européens, exactement. Et je pense un peu, on voit un peu qu'on n'est pas dans une position de pouvoir et puissance contre la Russie, parce que c'est Vladimir Poutine qui nous donne un peu des petits morceaux, et nous sautons et nous discutons et nous n'avons pas une solution. Et je pense ça, l'Europe, il faut vraiment avancer, de parler d'une voix et d'une voix claire et d'une voix vraiment diplomatique claire.
Surtout qu'en réalité, ce qui se passe sur le terrain, vous l'évoquez, Anna Navarro, c'est qu'en réalité, la Russie continue de détourner des drones qui viennent d'Ukraine sur les pays baltes. Il y a eu encore cette semaine une alerte à Vilnius, il y a eu des attaques de drones en Lettonie, en Estonie. Donc en réalité, sur le terrain, ce qui se passe, c'est quand même différent. C'est une stratégie particulière de la part de Vladimir Poutine. On a parlé de pression asymétrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais... Et attendons, parce qu'il y a deux versions et nous ne savons pas quelle est la vérité. Et dans une guerre, c'est toujours extrêmement difficile. Est-ce que les drones ukrainiens sont déviés par la Russie sur ces pays pour créer un autre front? Ou est-ce que l'Ukraine utilise cette démarche pour essayer d'impliquer davantage les Européens? On peut comprendre l'Ukraine dans sa démarche, mais les Européens doivent se préserver s'ils étaient sages, d'une guerre avec la Russie.
Alors, c'est la version d'Ursula von der Leyen qui, elle, dit que de toute façon, la responsabilité de ces attaques repose sur la Russie et sur le Belarus.
Madame Ursula von der Leyen dit de temps en temps quelques vérités et parfois beaucoup de contre-vérités. Vous savez. Et par rapport à Madame Kallas qui a été refutée, dont la médiation a été refusée par le Moscou, c'est là où je comprends pas. Franchement, ils ont une diplomatie si pointue à Moscou, c'est vrai, avec Lavrov, c'est quand même un diplomate de la vieille école. Et comment, s'ils voulaient vraiment être perfide, ils auraient accepté une médiation de Kallas. Parce que cette dame, quand même, apparaît de plus en plus en Union européenne comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur du poste qu'elle occupe. Elle a été le fruit de certaines négociations, tractations pour la formation de la Commission à l'époque. Elle a été Premier ministre de son pays, c'est sûr. Mais une fois au pied du mur, il y a eu quand même quelques petites lacunes qui peuvent nous être fatales. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche désespérément un médiateur. Je pense que les Russes ont quand même fait une sacrée faveur à l'Union européenne en la refusant.
Quand même, c'est bon de savoir que nous pourrons être à la table. C'est une grande discussion les derniers mois. Est-ce que l'Europe est à la table quand il y a des négociations? Et c'est la seule chose positive qu'on peut tirer, qu'au moins il y a une chance qu'on est à la table pour des négociations.
Si vous me permettez un trait d'esprit, encore faut-il faire attention de ne pas être le mets principal, vous voyez. Très bien de participer aux négociations et d'être à la table. Encore ne faut-il pas être le plat de résistance.
Mais non, Fabrice Ravel, vous faites du mauvais esprit parce que les Allemands, eux, ils essayent d'être actifs. On parle beaucoup de chancelier allemand, Friedrich Hoffmann, ce soir. Il y en a un autre, Friedrich Merz, l'actuel chancelier allemand, qui a envoyé une lettre à ses homologues pour lancer cette idée, l'idée d'un statut sur mesure pour l'Ukraine, un statut qui ferait que Kiev aurait accès aux instances de décision, sans droit de vote, sans portefeuille, et les Ukrainiens auraient accès aussi à certains programmes financés par l'UE de façon progressive. C'est ce qu'on appelle un statut de membre associé. Bon, c'est Friedrich Merz qui vient de l'inventer, de le sortir du chapeau. L'idée, c'est qu'on est en train d'abandonner la perspective d'une adhésion rapide et donc qu'on cherche autre chose.
Je crois qu'une adhésion rapide, c'est assez compliqué en ce moment. Quand on voit la situation de l'Ukraine hors de la situation géopolitique, est-ce que les pays prêtent pour l'adhésion à l'Union européenne à ce point-là? Non. On a des problèmes de corruption, des problèmes de droit, tout ça. On a des grands problèmes. Alors, ça va prendre du temps pour que l'Ukraine peut vraiment adhérer à l'Union européenne. Alors, de prendre ça, c'est un moyen, je pense, d'accrocher l'Ukraine à l'Europe. Mais est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûre. Parce que ça va ouvrir la porte à un classement d'adhésion à l'Union européenne. Il faut poser la question, qu'est-ce que se passe avec les autres pays qui vont adhérer? Est-ce qu'on change les règles pour adhérer à l'Union européenne? Alors, je ne suis pas sûre si ça vraiment marche.
Fabrice Ravel, je profite de votre expérience en géostratégie pour vous poser une question sur une clause particulière qui est la clause qui a attiré l'attention. Une clause qui fait que Kiev pourrait demander l'assistance des autres États membres en cas d'agression armée au titre de l'article 42.7. Est-ce que ça pourrait être vu comme une provocation de la part des Russes?
Alors, en fait, si vous me permettez, je reviens un tout petit peu en arrière sur la question précédente, parce que la question que vous posez, en fait, ces deux questions sont liées. Parce que nous ne manquerons pas de remarquer que, dans la lecture de l'article que vous faites, le conditionnel est utilisé.
Oui.
Ce qui laisse quand même déjà beaucoup de...
pourrait demander.
Beaucoup d'hypothèses ou de circonvolutions. Mais je crois que ce qui est intéressant là, provocation pour les Russes, certainement, et ça nous amène à la géostratégie russe ou à la culture stratégique russe. En fait, il y a deux points qui me semblent importants à mettre en évidence sur la question telle que vous nous proposez d'y réfléchir. Le premier point, c'est que d'abord, on pourrait s'interroger de savoir quelle est l'intention réelle du chancelier allemand. Parce que, comme vous l'avez bien souligné, il a inventé pratiquement un statut de membre associé. Donc la question qu'on pourrait se poser de façon un peu malicieuse, c'est est-ce que c'est fait pour favoriser l'entrée de l'Ukraine même à moyen long terme, ou est-ce que c'est fait pour permettre à l'Union européenne d'avoir un échappatoire et d'éviter que de faire rentrer l'Ukraine telle que ça lui a été plus ou moins esquissé ou telle que ça a été promis. Et c'est d'autant plus important à avoir à l'esprit, si vous me le permettez, que je crois qu'en Europe, il faut qu'on fasse attention à quelque chose. On peut être en adéquation ou le regretter, mais il y a une culture géostratégique russe. Et dans la culture géostratégique russe, l'espace est un facteur déterminant. C'est-à-dire que faut jamais oublier que dans l'esprit russe, et ça va bien au-delà de Poutine, et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent que le fait que Poutine s'en aille n'apporte pas une solution par rapport à cette problématique. Il y a eu les chevaliers teutoniques, je prie bien m'excuser pour cette réminiscence, il y a eu Napoléon, il y a eu le souverain de Suède, il y a eu les deux guerres mondiales, et il faut jamais oublier que on se rappelle bien que dans la Grande Guerre patriotique, il a fallu 2000 kilomètres pour aspirer l'adversaire et ensuite le refouler. Or, si vous faites un calcul, vous constatez que la frontière entre la Russie et l'Ukraine est à moins de 1000 kilomètres de Moscou. Pour un Russe, il faut bien qu'on comprenne quelque chose en Europe, quelle que soit sa sensibilité politique. Le fait que l'Ukraine rentre dans l'organisation de l'OTAN ou dans l'Union européenne, c'est tout simplement inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait qu'on a beaucoup stipendié Kissinger quand, à la fin de sa vie, il avait évoqué la finlandisation. C'était presque considéré comme un gros mot. Pourtant, j'aimerais rappeler que les Finlandais ont été très astucieux parce qu'ils avaient bien compris, eu égard à leur histoire, qu'il était impossible de rentrer d'emblée dans les prémices de la construction européenne, voire dans le traité de Rome du 25 mars 1957, et qu'il faut se rappeler que la Finlande n'est rentrée dans l'Union européenne que le 1er janvier 1995. J'en finis là. Donc, en fait, je crois que pour les Russes, ça sera forcément une ligne rouge ou un chiffon rouge, quelles que soient les modalités de vocabulaire que les Européens vont utiliser. Mais encore une fois, je ne suis pas totalement convaincu que l'Allemagne, en faisant cette proposition, cherche à faire rentrer l'Ukraine plus vite. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on cherche à trouver un terrain pour éviter que cette question soit posée trop rapidement à l'avenir.
Et c'est ce que craignent aussi les Ukrainiens. Je lisais dans un journal ukrainien un article d'opinion qui disait que c'est le risque de se retrouver dans l'antichambre de l'Union européenne un peu éternellement. Sauf que ce statut ne satisfait pas les Européens, à part Friedrich Merz qui l'a proposé. Il ne satisfait pas les Ukrainiens. Il fera sans doute peur aux Russes. Et finalement, il ne convient à personne, Alain Navarro.
Oui, donc à nouveau la question de pourquoi Friedrich Merz l'a proposé. Mais il y a ce point de vue, ça reste un pays de deuxième rang au sein de l'Union européenne, mais dans la structure que Merz a avancée, le pays, l'Ukraine, pourrait siéger parfois au Conseil européen, sans droit de vote, pourrait avoir deux eurodéputés non élus et qui ne pourraient pas voter, mais ils auraient aussi accès au marché commun et au fonds européen. Et là, beaucoup de pays vont dire non. À la France, pour commencer, les agriculteurs français auraient beaucoup, beaucoup, beaucoup à craindre de cette ouverture du marché agricole aux produits agricoles ukrainiens. Deuxièmement, les fonds européens aussi, on donne énormément d'argent. On donne carrément. Faut pas. Madame Ursula von der Leyen dit que ce sont des prêts. Faut pas rêver. L'Ukraine va jamais les rembourser. Donc, on va encore donner davantage d'argent alors que nous avons énormément de problèmes en Europe. On va partager les fonds européens avec un pays immense. Et puis autre chose, vous disiez tout à l'heure les questions de droit. Un pays pour adhérer à l'Union européenne, il y a ça à peu près, hein, de droit à mettre en ordre. Mais ça, vraiment, en termes d'article par article, de droit interne à mettre en cohérence. Absolument. Avec le droit européen.
Absolument.
C'est hors de question.
Et ça n'est qu'une étape, pardon, parmi plus d'une dizaine en plus auxquelles
il faut... Une dizaine en plus. Ensuite, la question des droits de l'homme. Ensuite, la question de la corruption. Certes, nous avons des cas de corruption au sein même du Parlement européen et de la Commission. Et ce n'est pas des moindres. Mais la corruption endémique que nous sommes en train de voir dans les plus hautes sphères du pouvoir en Ukraine est ahurissante. Donc, et puis, dernière chose, tous les autres pays qui attendent d'entrer... On en fait quoi? Eux, ils vont faire la procédure lente d'entrée, de se mettre en accord. Et puis, il y en a un qui a une entrée privilégiée avec, en toile de fond, la question donc de l'aide militaire, de l'assistance militaire vers la Russie. C'est extrêmement compliqué. Je voulais juste ajouter quelque chose. Parce que j'étais ravie de vous entendre dire ce que vous avez dit sur la question du territoire vital pour la Russie. Mais si je l'ai lu dans le temps, si je l'ai connu dans le temps, c'était par deux grands géostratégiens français, Yves Lacoste et Gérard Chalian.
Bien sûr.
Le regretté Gérard Chalian, qui nous ont toujours, mais depuis, même avant la chute de l'Union soviétique, qui nous rappelait cette question fondamentale qu'on ne pouvait pas oublier dans la géopolitique.
Et je pense ce que Friedrich Merz a aussi en tête, on parle potentiellement d'une Union européenne avec 35 membres et on voit déjà qu'avec 27 ça marche pas. pas trop bien. Alors, si on avance dans ce sens-là, et ça donne à lui une option de peut-être éviter un peu l'élargissement des autres pays. Je pense que ça, c'est aussi, il faut avoir en tête.
Ça, on peut avoir ça en tête, et puis on peut avoir aussi l'idée qu'il est bien content de lancer une grande balle dans un milieu d'un jeu de quilles européen où il n'est plus en ce moment en état de grâce.
Frédéric Hoffmann, justement, j'en profite pour vous poser une question purement allemande. On voit que c'est un peu le style de Friedrich Merz de lancer des idées comme ça. Il avait fait un peu la même chose l'année dernière en lançant l'idée d'utiliser les fonds gelés russes pour un prêt de réparation à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Est-ce qu'il essaye d'occuper un peu la scène en voyant qu'en ce moment, on parle plutôt d'Emmanuel Macron, de Pedro Sanchez, de Giorgia Meloni et...
Je crois que c'est moins stratégique. C'est un peu sa personnalité. Et on voit ça avec beaucoup de décisions, avec avant les élections, un peu les choses qu'il a dit, les décisions qu'il a prises, c'était un peu en marche en avance. Et après, il faut souvent faire une marche en arrière. Et je pense, on a vu ça nationalement avant, même avant qu'il était chancelier, on connaît déjà. Et maintenant, on a ça sur la scène internationale. Et en fait, le président français, il est aussi un peu connu pour ça, qu'il fait des grandes annonces et après, il faut marcher un peu en arrière. Alors, peut-être c'est aussi un peu le style pour bouger aussi un peu les lignes et peut-être avancer quand même, même si ça ne se passe pas comme prévu initialement.
Surtout qu'il y a des États qui ne sont pas encore convaincus. Fabrice Ravel, il y a par exemple la Hongrie de Peter Magyar, qui est beaucoup plus pro-européen, évidemment, par rapport à son prédécesseur Viktor Orban. Mais lui, il est encore opposé à toute adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, surtout une adhésion rapide. Finalement, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord à 27 sur cette adhésion rapide.
Alors, ce qui est intéressant dans la question que vous posez, c'est qu'il y a deux axes. D'abord, je crois qu'effectivement, on a été très très vite, trop vite, en pensant que le changement de présidence en Hongrie allait nous amener à un revirement à 180 degrés de posture, parce que quand on voit bien les forces politiques et sociétales qui ont soutenu ce changement, il y a quand même des forces qui sont très conservatrices, et d'ailleurs, on aurait pu dire, pour parler au nom de nos amis hongrois, qui prennent en compte les intérêts de la Hongrie, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en géopolitique, pour un pays, c'est quand même légitime qu'on défende ses intérêts, et peut-être que de ce point de vue-là, vous êtes en train de mettre en évidence que la Hongrie a peut-être des intérêts de par sa proximité géographique, de par les liens ancestraux qu'elle a avec la Russie, qui sont différents. Mais là où votre question est d'autant plus interpellante, c'est qu'effectivement, on revient par rapport à ce qu'on est en train d'invoquer. Je rappelle quand même que dans la procédure d'adhésion à un pays, il y a deux moments qui sont vraiment cruciaux. D'abord, il y a un moment où il va falloir que les chefs d'État se réunissent et décident à l'unanimité d'accepter l'adhésion. On sait bien quand même que les positions de la Grèce ou de Chypre par rapport à l'adhésion éventuelle de la Turquie au début du XXIe siècle étaient un barrage. Et puis surtout, il faut rappeler qu'une fois que le traité est signé, ça ne suffit pas, car il faut ensuite qu'il soit ratifié d'un point de vue légal dans chacun des 27 pays, ce qui nous amène d'ailleurs dans des situations qui sont très différentes, puisque les systèmes politiques ne sont pas les mêmes, qu'il y a des pays qui sont parlementaires, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'évoquais la dizaine d'étapes. Même un traité d'adhésion dans lequel le pays aurait pu entériner le fait d'avoir totalement modifié sa législation d'une part et qu'il y ait l'aval des chefs d'État des pays concernés d'autre part, ça ne suffirait pas. Donc oui, la procédure est particulièrement complexe.
Bon, les experts sans frontières ne sont pas non plus convaincus par cette idée de Friedrich Merz sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous, on prend juste une courte pause et on revient après. On va parler de la Chine et de Xi Jinping. Est-ce que Pékin est le nouveau centre géopolitique du monde ? À tout de suite.
Les experts sans frontières.
Les experts sans frontières qui continuent ce soir, on se déplace à l'Est, on va à Pékin parce que Vladimir Poutine, le président russe, était à Pékin cette semaine. Le timing de cette visite, évidemment, n'est pas du tout anodin puisque seulement quelques jours auparavant, Donald Trump était lui aussi à Pékin. Il y a quand même une différence entre ces deux visites puisque l'un est son rival systémique, l'autre son principal allié, ou du moins c'est ce qu'ils étaient avant cette visite. Écoutez ce qu'ils ont déclaré tous les deux, d'abord Xi Jinping, ensuite Vladimir Poutine, après la visite.
La coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, des sciences et technologies n'a cessé de progresser. Les relations sino-russes sont entrées dans une nouvelle phase marquée par des avancées plus importantes et un développement plus rapide.
Notre pays est l'un des plus grands exportateurs de pétrole, de gaz naturel, y compris de gaz liquéfié et de charbon vers la Chine. Nous sommes bien sûr prêts à continuer d'assurer de manière fiable un approvisionnement ininterrompu de tous ces combustibles au marché chinois en pleine expansion.
Fabrice Ravel, là, c'est Vladimir Poutine qui met, si j'ose dire, les pieds dans le plat, parce qu'il dit que le vrai focus de cette rencontre, finalement, c'était l'énergie et ce gazoduc qui lie en ce moment toutes les relations entre Moscou et Pékin.
Oui, ce qui a l'avantage de montrer clairement que, en fait, dans le rapport d'amitié...
Sans limite,
naturellement, d'un point de vue diplomatique et de rapport de force d'un point de vue peut-être un peu plus raisonnable d'un point de vue géopolitique, on pourrait déjà commencer par faire remarquer que maintenant la balance penche très très nettement du côté chinois, et ça c'est nouveau. Surtout si on s'inscrit dans une perspective à long terme. Il y a toujours une chose qui m'étonne un peu quand on évoque les rapports entre la Russie et la Chine. On peut comprendre qu'on se laisse emporter, évidemment, par une vision... parfois un peu manichéenne, dire bon, alors il y a les Russes et les Chinois d'un côté, puis il y aurait les Européens et les Américains de l'autre. Enfin, je rappelle que De Gaulle disait que les alliés sont des gens... dans les alliés, il y en a toujours un qui porte l'autre sur les deux épaules. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que les Russes dépendent beaucoup plus des Chinois aujourd'hui que les Chinois dépendent des Russes. Et qu'on voit bien que plus les événements durent dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis cinquième année maintenant, plus les Chinois, évidemment, sont dans une domination, dans une maîtrise. Ce qui m'amène, si vous me permettez, peut-être dans un deuxième temps, à la place de la Chine, parce qu'on entend beaucoup dire aujourd'hui que la Chine pourrait être le nouveau centre du monde. Alors, je trouve que c'est intéressant, parce que le nouveau centre du rapport entre les Russes et les Chinois, certainement. Au niveau du monde, je pense que là, il faut faire attention à la phrase que Xi Jinping a utilisée lui-même il y a deux semaines quand il a rencontré Donald Trump et qui était l'évocation spontanée du piège de Thucydide.
Alors expliquez-nous en quoi ça
consiste. Le piège de Thucydide est un concept qui a été expliqué par Graham Allison dans son livre « Vers la guerre, les États-Unis et la Chine tomberont-ils dans le piège de Thucydide ?» L'idée, c'est de faire une analogie avec la guerre entre Sparte et Athènes et de considérer que la première puissance installée déclenche une guerre préalable de peur d'être rattrapée par la deuxième. Donc là, en fait, en se positionnant dans ce concept, la Chine se met spontanément, non pas dans le rôle de leader, mais dans le rôle de puissance montante. C'est assez intéressant à noter, je crois. Et c'est d'autant plus intéressant à noter que faut pas oublier qu'il y a quand même des difficultés économiques en Chine et que notamment, il y a un gros problème qu'il va falloir gérer, c'est l'aspect démographique et le vieillissement de la population. Ce qui veut dire que la Chine peut considérer aujourd'hui qu'elle a une fenêtre d'opportunité qui est en train de s'ouvrir. Et je finirai mes propos sur cet aspect, si vous le voulez bien. C'est d'autant plus important à considérer que la Chine est véritablement le centre du monde si on en prend en considération le problème de Taïwan. Parce que en réalité, on peut considérer que Taïwan, c'est les Balkans du XXIe siècle, et que là, on voit bien d'ailleurs que dans la rencontre qu'il y a eu entre Xi Jinping et Donald Trump, les propos ont été assez aseptisés. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a vraiment rien dit, et le vrai point de tension est là. Donc s'il s'agit de considérer que la Chine est le centre du monde de par la question essentielle qu'elle soulève à Taïwan, ça, certainement, et la Chine s'appuie sur la Russie pour ce problème en particulier.
Alors, vous évoquez Taïwan, qui a été un des sujets de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. C'est vrai qu'il y a un point commun entre les deux rencontres, c'est que finalement, les résultats ont été assez modestes, puisque Donald Trump voulait obtenir des résultats sur les Boeing. Finalement, les Chinois en ont acheté moins que prévu. Il voulait obtenir la collaboration de la Chine sur l'Iran. Finalement, les Chinois sont assez tièdes sur le sujet. Et là, c'est pareil pour Vladimir Poutine. Il y va pour faire signer ce gazoduc, pouvoir de Sibérie 2. Il n'y arrive pas vraiment. Donc finalement, c'est Xi Jinping qui a toutes les cartes en main. C'est lui qui gère le timing, Anna Navarro.
Alors, je ne suis pas une sinologue, donc je ne sais pas, connais vraiment pas les méandres de la prise de décision en Chine, mais on suppose que oui, que Xi est vraiment le boss, le patron en Chine. Il y a des éléments intéressants, parce qu'effectivement, en 2023, il y a une des 60 et quelques rencontres entre Xi Jinping et Poutine depuis 2012. Et... au moment des adieux, il y a une petite pause et Xi Jinping dit Nous sommes en train d'assister aux changements les plus radicaux, les plus extraordinaires du monde depuis 100 ans, une centaine d'années. Et je ne sais pas, je me souviens plus si c'est Poutine qui a répondu ou si c'est Xi Jinping qui a enchaîné, et, mais l'un des deux a dit, et c'est nous deux qui conduisons ce changement. Donc, ils ont cette notion d'un partenariat de changement d'axe de force politique, géopolitique dans le monde. Ça, c'est sûr. Je me rappelle aussi que la Chine, vers 2010, 2012, 2011, avait adopté un plan où elle prévoyait d'être la première puissance économique et militaire mondiale en 2049, c'est-à-dire pour le centenaire de l'ascension, de la victoire. Exactement. Du pouvoir communiste. Mao Tse-tung.
Et dans ce plan, plus de 20 ans, elle pourrait y arriver.
Exactement, c'est cela. Et dans ce plan, il y avait déjà inscrit l'attaque contre le dollar, la dédollarisation, parce que c'est crucial pour effectivement pouvoir faire chuter la puissance américaine. Donc il y a énormément d'éléments. Ce qu'on observe maintenant, et pas abondé dans votre sens, ce qu'on observe maintenant, c'est est-ce que la Chine est le centre du monde ? Tout le monde y va. Mais n'oublions pas que la guerre contre le Venezuela, l'attaque contre le Venezuela par Trump, la guerre contre l'Iran, certes poussée par Netanyahou et par Israël, mais acceptée par Trump et par l'État profond américain, et dans le sens aussi de faire un peu le siège de la Chine sur le point de vue énergétique. Donc c'est la Chine qui est en ligne de mire des Américains. Donc on est vraiment dans la notion d'un hégémon qui craint la naissance ou la puissance d'un nouvel hégémon qui va le dépasser, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Mais la Chine, par rapport à la Russie, c'est pas seulement une question d'énergie, une question de dominant-dominé. Parce que la Chine est certes la deuxième puissance militaire, la deuxième puissance économique, mais sa diplomatie est encore très hésitante. Elle n'a pas d'expérience, elle n'est pas aguerrie vraiment aux intempéries de la géopolitique. Et ses militaires peuvent être très puissants, mais ils ne savent pas se battre, ils n'ont pas eu de combat. Et nous avons la Russie qui, elle, sait se battre, et qui a l'expérience de la guerre, comme l'Ukraine sont les deux puissances, et l'Iran aujourd'hui, dans le monde. Et puis, ils ont une diplomatie, les Russes, qui est assez exceptionnel.
Après, il y a quelque chose que les Chinois ont bien réussi dans leur diplomatie et qui nous aurait sans doute tous étonnés si on l'avait su il y a 20 ans ou 30 ans, c'est qu'ils ont réussi à se positionner comme le chantre de la stabilité. Ça, c'est l'idée de Xi Jinping. Et aujourd'hui, on a vraiment l'idée, c'est un de ses discours aux Nations Unies, on a vraiment cette idée que la Chine est finalement plus stable par rapport aux États-Unis qui deviennent de plus en plus imprévisibles.
Oui, on observe peut-être pas la Chine le centre du monde, mais la Chine le centre d'arbitrage. Et ça, je trouve fascinant que, en fait, la Chine n'a pas fait beaucoup les derniers mois. Mais ça, la Chine a beaucoup gagné, et c'était Donald Trump qui a renforcé le rôle de la Chine avec la guerre en Iran. On voit maintenant que l'Amérique n'est plus un partenaire stable, et ils font une guerre sans stratégie, ils n'ont plus de partenaires, ils s'éloignent de tout le monde, et bien sûr, ça renforce le rôle de la Chine. Et
ça le fait d'autant plus. Il faut quand même pas oublier que la tradition chinoise, c'est un peu facile, mais c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc la diplomatie s'affiche peut-être moins, mais je rappelle que, pour citer Sun Tzu, l'art suprême consiste à vaincre l'adversaire sans combat. Donc, on est exactement dans cette situation-là. Et en fait, c'est bien ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on a une grande puissance qui donne le sentiment qu'elle s'agite beaucoup, et qu'en plus, elle devient assez imprévisible, et que donc, en fait, il s'agit de ne il y a juste rien à faire que de laisser les événements se dérouler pour qu'ils arrivent à vous. C'est exactement ça.
Surtout que Donald Trump a demandé l'aide de la Chine sur plusieurs dossiers, sur le dossier iranien notamment, et puis sur le dossier nord-coréen, puisque les médias sud-coréens, l'agence sud-coréenne Yonhap, a annoncé cette semaine que Xi Jinping va donc se rendre à Pyongyang la semaine prochaine, et que cette idée lui aurait été soufflée par Donald Trump, qui lui aurait demandé de, je cite, « jouer un rôle constructif pour la reprise du dialogue ». Donc, Donald Trump qui demande à Xi Jinping d'être médiateur avec Kim Jong-un, c'est que vraiment, on est presque dans un retournement de situation qui aurait été extrêmement étonnant.
Ça confirme ce que disait ma collègue, c'est-à-dire que ça devient un centre de négociation incontournable pour aboutir sur des logiques géopolitiques. On est très loin de la situation de la Chine des années 80 ou 90, qui s'enfermait dans une sorte de mutisme ou presque d'isolationnisme. Là, en fait, on est dans une quiétude qui amène les acteurs. Faut pas oublier, on est en train de voir les images du défilé d'ailleurs chinois. Il y en a eu un le 2 septembre 2025 où la puissance était affichée de manière ostensible.
Et il faut aussi pas ignorer que c'est lié, on parle de la politique maintenant, mais c'est lié avec une puissance économique qui a augmenté énormément les dernières années. Ce qu'on voit maintenant, par exemple, les voitures en Europe, les voitures électriques, l'avancement de toutes ces technologies en Chine, ça c'est lié. Et ça, c'est un pouvoir sur deux niveaux qu'on n'a pas eu comme ça en avant.
Il y a un article qui a beaucoup fait réagir cette semaine dans la presse italienne, c'est le quotidien économique italien Il Sole, qui a donné un avis un peu polémique, j'aimerais avoir votre avis, qui dit que pour Xi Jinping, le plus dur commence maintenant. Nous, on se dit effectivement qu'ils arrivent peut-être un palier, ben non, selon Il Sole, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'enfin les Américains reconnaissent les Chinois comme leurs égaux, ils leur parlent comme des égaux, mais justement, cette reconnaissance américaine change tout. Pékin, jusqu'à hier, pouvait se limiter à observer les erreurs de Washington avec cynisme et donc à laisser faire toutes les erreurs à Donald Trump. Et Il Sole dit d'ailleurs, je vous conseille de lire cet article parce qu'il est remarquable, il dit Xi Jinping pouvait regarder Donald Trump qui transformait sa politique étrangère en un rodéo avec des lance-flammes. Aujourd'hui, ça ne suffit plus puisque la Chine fait désormais partie intégrante de ce système et donc elle doit contribuer à le stabiliser sur plusieurs fronts, notamment le front iranien et le front ukrainien. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ?
Peut-être la Chine a l'avantage qu'ils n'ont pas une relation émotionnelle comme nous. Parce que si on n'a pas des attentes, nous avons des grandes attentes en Europe vers les États-Unis. C'est un partenaire qui nous a un peu lâchés et la Chine n'a pas cette attente. Alors peut-être pour la Chine, ils peuvent beaucoup mieux gérer les États-Unis que les Européens.
Mais ce qui est intéressant dans l'article que vous évoquez et que je trouve effectivement très judicieux, c'est qu'on se trouve exactement dans la symétrie ou dans le pendant de ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide. Je m'explique très brièvement. En fait, quand on reprend un ouvrage d'André Fontaine, il y a une citation d'un grand diplomate russe qui va voir les Américains qui sont très satisfaits de voir la chute du mur 9 novembre 89 et puis le discours de Mikhail Gorbatchev 25 décembre donc qui a suivi en 91. Et le diplomate soviétique les alerte en disant, vous savez, vous devriez être apeuré car nous vous privons d'adversaires, maintenant vous allez devoir tout gérer tout seul. Et en fait, c'est pour ça que l'article du journal que vous mentionnez est intéressant, parce que là, les Américains sont en train de dire aux Chinois, bah, vous allez devoir co-gérer le monde avec nous, quitte à ce que vous ayez la moitié de l'hémisphère, une sorte de guerre froide qui se réinstalle. Donc c'est pas forcément un avantage, ça.
Il n'en reste pas moins que la Chine, là on oublie un élément qui est moribond en ce moment, on dirait c'est les BRICS, c'est-à-dire cette organisation du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, qui a d'autres planètes qui sont alliées, notamment l'Iran qui est membre de en état plein.
Oui. Tout comme les Émirats Arabes Unis. Si
les Émirats Arabes Unis, et même l'Arabie Saoudite qui était un petit peu assise entre deux. Bon, mais cette organisation qui était à la tête de ce changement de l'axe géopolitique du monde dont je parlais tout à l'heure, dont on parlait Xi et Poutine il y a quelques années, eh bien là, avec la visite de Modi, donc le premier ministre indien, à Israël, à la veille du déclenchement de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, a considérablement affaibli les BRICS parce qu'il a provoqué des divisions au sein de l'organisation. Mais il n'en reste pas moins que les travaux continuent au niveau de la banque de développement, de financement, du changement d'une alternative au système SWIFT, c'est-à-dire pour les échanges internationaux, les transferts, les virements d'argent. Au niveau monétaire, ça continue, même si politiquement et géopolitiquement, on ne parle pas pas beaucoup des BRICS en ce moment. Et puis la Chine, dans cette avancée-là, s'était positionnée comme le pays qui, contrairement aux États-Unis et à l'Occident en général, l'Europe aussi, n'était pas une puissance interventionniste. Quand elle apportait son aide, elle n'intervenait pas, elle ne demandait pas des choses en échange, et elle ne donnait pas des leçons de morale, comme le font beaucoup les Européens, et elle n'imposait pas son pouvoir, visiblement, il y en a, comme le font les États-Unis.
Elle le faisait via le commerce.
Via le commerce, et notamment là, les nouvelles routes de la soie, ce maillage extraordinaire de voies ferrées, d'axes routiers, de ports maritimes, sur 150 pays maintenant, et qui, vraiment, à partir du commerce de l'argent, de ce qui intéresse tout le monde, constitue effectivement un outil de puissance.
En tout cas, pendant que les Chinois et les Russes travaillent sur leur amitié sans limite, les Américains, eux, ils continuent de travailler de l'autre côté du monde, au Groenland. Pourquoi je vous parle du Groenland ? Parce que cette semaine, il y avait une grande conférence sur l'avenir du Groenland, sujet ô combien intéressant pour nous. Conférence à laquelle participait aussi une délégation américaine, et notamment Jeff Landry, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump. Il a dit très clairement ce qu'il était venu faire là. Écoutez.
Je pense qu'il est temps que les États-Unis remettent leur empreinte sur le Groenland. Je pense que vous voyez le président parler de renforcer les opérations de sécurité nationale et de réaffecter du personnel dans certaines bases ici. Et je ne manquerai pas de faire savoir au président que toutes les personnes à qui je parle ici au Groenland aimeraient beaucoup voir les États-Unis rouvrir ses bases. Le Groenland a besoin des États-Unis.
Le Groenland a besoin des États-Unis. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Le Groenland a besoin des États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites, Frédéric Hoffmann ?
Peut-être il faut demander les Groenlandais. Parce qu'on voit qu'il y avait l'ouverture de consulats américains en Groenland, qui normalement étaient
nouveaux locaux du consulat.
Oui, qui était... normalement, la France a fait ça en février. Canada aussi, il y a quelques mois. Il n'y avait pas de protestation, bien sûr, mais... Il y avait des protestations de centaines de personnes qui étaient déjà beaucoup en Groenland. Et ce qu'on a
comparé à la population, effectivement, il y avait un millier de personnes, ce qui est immense.
Et je pense, de parler comme ça d'un pays, c'est pas de respect pour ce pays. Et on voit qu'avec les États-Unis, nous avons maintenant un pays en face de nous qui pense dans les sphères de pouvoir. Et c'est plus un pays qui est lié sur la diplomatie et les partenariats. Et je pense, on n'a pas, peut-être pas encore 100% compris en Europe, qu'on espère toujours que ça va changer un jour, en janvier. On a pensé, ah oui, il s'est calmé un peu, maintenant c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est pas fini, et ça va continuer. Il faut réaliser ça et agir.
C'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est un peu sorti du radar médiatique, parce qu'on s'est concentré sur d'autres choses, sur l'Iran, sur Cuba, sur cette visite de Donald Trump. Mais en réalité, les Américains, eux, ils continuent de travailler en coulisses. Ils travaillent sur l'installation de 3 nouvelles bases. Ils travaillent sur des accords sur les terres rares qui les intéressent énormément. Ils travaillent sur un droit de veto sur tous les investissements au Groenland, ce qui reviendrait de facto à bloquer les Russes et les Chinois. Tout ça, on le lisait dans le New York Times cette semaine. On a vu une levée de boucliers en début d'année, en janvier. Là, on voit les Américains qui passent par la fenêtre, en fait. Comment on fait en tant qu'Européens pour les arrêter ? Est-ce qu'on peut les arrêter, Anna Navarro ?
Je pense que l'Europe, dans l'état où elle est actuellement, ça va être difficile. On peut aller se battre et mourir pour le Groenland, ça c'est sûr. L'issue n'est pas militaire de la bataille n'est pas assurée ni pour un côté ni pour l'autre. Donc pour les Européens, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas de monnaie d'échange, on n'a pas de levier de puissance à exercer auprès des États-Unis là-dessus. Peut-être qu'on va trouver, je ne sais pas, mais même non. Et vous voyez, à un moment donné, le Danemark avait invoqué un élément qui était intelligent, où il avait dit, si jamais les Groenlandais votaient pour être sous le buisson américain, ils perdraient le système de santé, de sécurité sociale danois dont ils bénéficient actuellement, la santé gratuite. Eh bien, M. Jeff Landry, il s'amène cette semaine avec un médecin pour établir un état de santé des Groenlandais. comme a dit le Premier ministre, enfin le Premier ministre hollandais, il a dit, mais c'est quelque chose du million et vraiment que ça rabaisse la population de le pays, notre territoire. Et puis il s'est aussi amené, comme les colons anglais sont amenés dans le temps auprès des Indiens en Amérique du Nord, avec, vous savez, de la bibeloterie, des petites perles en verre et des couvertures qui d'ailleurs étaient contaminées pour certaines, pour échanger contre des territoires, contre des terres. Eh bien, Jeff Landry, il a donné des choses, il a promis aux enfants que s'ils voulaient, les Américains, ils auraient des biscuits en Louisiane. Non, mais franchement, c'est absolument humiliant et dégradant.
En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est ce qu'on lit en ce moment dans la presse groenlandaise cette semaine, dans Sermitsiaq, qui est un quotidien groenlandais. On lisait une interview de l'ambassadeur américain au Danemark, qui racontait justement ce que vous évoquiez, hein, Frédéric Hoffmann, donc l'ouverture des nouveaux locaux du consulat américain qui ont été inaugurés en grande pompe avec une grande fête, et qui disait que, en fait, l'inauguration de ces bâtiments est très importante, elle est très symbolique, parce que les bâtiments en diplomatie ne sont jamais que des murs, ils symbolisent, ils ont des significations très importantes du point de vue symbolique, ils témoignent de notre présence, de notre sérieux et de notre volonté de nous implanter durablement. Là, Fabrice Ravel, c'est une feuille de route extrêmement clair de la part des Américains.
Oui, mais en réalité, ce qui est très surprenant dans cette histoire, c'est qu'on soit surpris, si vous me permettez cette boutade. parce que
je vous la concède.
Je vous en remercie. En fait, cet événement nous amène sur deux logiques majeures. D'abord, l'administration américaine, on doit se rappeler du document qui a été publié le 8 décembre 2025 et qui met clairement en évidence quelles sont les logiques de cette administration. Pour synthétiser, on voit bien que c'est une logique qui consiste à profiter de toutes les occasions et de toutes les opportunités et d'appréhender l'ensemble des pays ou l'ensemble des logiques pour voir si on peut s'insérer dans une interstice quelle qu'elle soit. Et il faut bien comprendre que du point de vue américain, c'est d'autant plus légitime que on est d'un point de vue géostratégique dans la fin d'un monde, on bascule sur un autre monde, que donc le rapport de force est censé créer la hiérarchie des nouvelles puissances à l'avenir. C'est bien la raison pour laquelle, pour nous, Européens, il va y avoir des questions essentielles qui vont se poser, parce que tous les liens anciens sont en train de se distendre, et c'est des nouveaux rapports entre pays qui sont en train de se mettre en place.
Alors justement, aidez-nous, nos chers experts, à le comprendre, ce nouveau monde, avec vos cartes blanches, avec votre moment. Vous nous donnez des sujets que vous avez repérés, que vous avez écrits dans la presse de votre pays. Anna Navarro, qu'est-ce que vous nous ramenez du Portugal cette semaine ?
Alors, en fait, ça vient via Eurostat, qui est l'organisme européen pour les statistiques des pays membres. Et c'est un sujet sur le Portugal. 60% des familles portugaises qui ont des enfants ont un seul enfant. C'est devenu le pays de l'enfant unique, quasiment. 6% seulement ont trois enfants ou plus. Ça pose d'énormes problèmes économiques et démographiques à l'avenir du pays. Le taux de fécondité, est à 1,34 maintenant, je crois. On a beaucoup plus de décès que de naissance dans ce pays. Donc, ça va poser d'énormes problèmes économiques, d'énormes problèmes de démographie. Il s'ajoute une immigration toujours très importante et surtout des très hauts diplômés portugais. Environ 75 000 personnes qui quittent le pays tous les ans parce qu'il n'y a pas assez de logements, tourisme, Airbnb, etc. Et parce que les salaires sont plus élevés ailleurs. Et j'avais choisi un site qui n'est pas un journal mainstream, qui ne sont pas du tout intéressés à cette affaire. C'est un site d'un jeune franco-portugais qui parle du Portugal en français pour les expats et qui nous a fait une magnifique, on a vu il y a tout à l'heure, une magnifique illustration de l'ancien temps où les familles pouvaient avoir jusqu'à 15 enfants.
Le Portugal, lui aussi, aux prises avec ce problème de la natalité. Qu'est-ce que vous nous avez ramené d'Allemagne, Frédéric Hoffmann ?
Alors, comme nous venons de parler du changement d'un monde à l'autre, j'ai amené un article où j'ai aussi participé. Nous faisons ça aussi chez Handelsblatt, qu'on écrit souvent des articles ensemble. C'est avec mes collègues à Berlin, à Bruxelles, dans l'Europe de l'Est, en Italie, et surtout sur les questions géopolitiques. Et ça, dans cet article, on parle de la fenêtre de l'opportunité que l'Union européenne à maintenant, parce que l'année prochaine, on a des élections pas qu'en France, mais aussi en Pologne, en Italie. Et maintenant, c'est l'année décisif pour l'Europe, où il faut prendre des grandes décisions, parce que l'année prochaine sera très, très différente, et aussi les équilibres politiques vont changer fondamentalement. Il y a beaucoup de décisions à prendre, c'est la vote à l'unanimité qui doit être décidé si on reste, on a touché ce thématique plusieurs fois ce soir, mais aussi le budget, le prochain budget de l'Union européenne, il y a des grands enjeux, et c'est maintenant le temps pour décider.
Merci, Frédéric Hoffmann. Quelles sont les infos à Bruxelles, Fabrice Ravel?
Alors, j'ai choisi ce soir de vous présenter un article du soir du 9 mai qui s'intitule « La défense va acheter des missiles américains pour plusieurs milliards de dollars » et qui est en fait confirmé par un article d'aujourd'hui qui confirme que la Belgique va acheter pour 700 millions. Je vais très très vite de par le temps qui nous est imparti, puisque en fait, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord que les agences américaines de sécurité avalisent un certain montant, puis ensuite le gouvernement concerné fait la démarche. Parce que, a fortiori, dans le cadre de toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, j'ai le sentiment que ça souligne un constat et que ça peut nous amener à deux remarques. Le constat, c'est que je pense que, surtout d'un point de vue français, puisque je vais alterner mon regard franco-belge, on pourrait critiquer la Belgique en disant « mais voilà qu'ils se mettent à acheter des F-35 et des missiles américains ». Donc, le constat est très clair. C'est une mise en évidence que la sécurité européenne n'est pas suffisante ou que les questions de la défense européenne ne sont pas assez développées, puisque les Belges n'ont pas l'air de comprendre le souci que les Danois ont rencontré avec les F-35. Ceci étant, les Belges de faire remarquer que on peut nier la gravité, mais c'est pas pour ça que on l'empêche, et que en réalité, c'est pas la Belgique à elle toute seule, comme l'a fait remarquer Bart De Wever en décembre 2025 sur les questions qui liaient les finances, les gels des finances. C'est pas la Belgique elle toute seule qui va le faire. Donc ça m'amène à une conclusion. Voilà un pays qui est divisé, qui a un système parlementaire, mais qui, malgré tout, sur les questions de défense, arrive à tomber d'accord. Je pense que pour l'Europe, c'est une voie d'inspiration.
Voilà, je vous vois fier alors de votre Belgique. Merci beaucoup, Fabrice Ravel. Merci beaucoup, mes chers experts. C'est bien la preuve que même entre Européens, on arrive à avoir quand même des avis très différents. Merci pour vos regards si riches, si variés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières. Vous retrouvez Mathieu Jolivet qui reprend sa place. Bon week-end à tous et dans un instant, c'est le journal avec Stéphanie Collot.
Les Experts sans frontières sur BFM Business.